Échange, santé et psychologie. Une émission proposée et animée par Béatrice Reiss, psychologue clinicienne.
Chers amis de Mosaïque FM, bonjour et bienvenue dans l'émission de Béatrice, Échange, santé et psychologie. Aujourd'hui, nous recevons Clémentine Delbecq. Bonjour Clémentine.
Bonjour Béatrice.
Clémentine Delbecq, vous êtes psychomotricienne, vous êtes installée à Saint-Raphaël. Et donc, dans votre cabinet de psychomotricité, vous accueillez les bébés, les enfants et les femmes enceintes. Alors, pour les bébés, j'ai noté conseils, prévention, éveil, rééducation des troubles transitoires ou persistants. Donc, je ne les nomme pas parce que vous y reviendrez certainement. Pour les enfants, des bilans psychomoteurs, des séances de rééducation, bien sûr, des difficultés, des retards dans le développement. Et puis, pour les femmes enceintes, eh bien, des massages, bien-être, des conseils. Ça, bien sûr, on en a tous besoin. Une jeune maman, j'ai pris mi part, hein, la première fois, c'est une grande expérience. Alors, Clémentine, je vais vous laisser la parole tout au long de l'émission, bien sûr, parce que c'est vous qui allez nous en dire plus sur votre métier. Déjà, ce n'est pas un métier qui est hyper connu, donc ça serait très, très bien que vous vous présentiez dans votre métier, d'abord d'une façon générale.
Alors effectivement, c'est un métier qui n'est pas très connu et qui est assez vaste, donc difficile à résumer rapidement. Tout d'abord, la psychomotricité, c'est une profession paramédicale, au même titre que l'orthophonie ou la kinésithérapie. C'est un métier assez global entre la prévention, la rééducation et la thérapie. On travaille en collaboration avec les autres professionnels de santé pour améliorer les capacités de motricité relationnelle et participer au développement et au bien-être psychologique et affectif des patients. On peut intervenir dès la naissance pour les bébés prématurés ou avec un retard de développement, auprès d'enfants, d'adolescents avec un handicap, atteints d'autisme ou de troubles des apprentissages ou du comportement. On peut intervenir auprès d'adultes qui ont fait un AVC par exemple, ou des personnes âgées en maison de retraite ou en perte d'autonomie au domicile ou avec des troubles de l'équilibre. On a donc un champ d'application très vaste, mais ce qu'on utilise toujours comme médiation thérapeutique, ce sont des approches corporelles et ludiques. Pour ma part, je reçois essentiellement des bébés et des enfants et j'ai une démarche de prévention au niveau de la motricité des bébés car je me rends compte de plus en plus des mauvaises habitudes qui sont prises dès le plus jeune âge et qui peuvent favoriser par la suite des difficultés à moyen terme ou à long terme, même jusqu'à l'âge adulte. Je reçois beaucoup de patients qui ont des difficultés scolaires et qui sont probablement causées par des mauvaises habitudes parentales dès tout petit. Parce qu'on a tous un tas d'idées reçues, tout le monde a un avis sur la motricité des bébés, sur comment on doit les poser, etc. Et on est souvent perdu quand on est jeune maman ou jeune papa, parmi tous ces conseils et quand on doit acheter du matériel de puériculture.
Voilà, justement, Clémentine Delbecq, c'est votre métier d'expliquer aux parents les bons gestes et en effet de procéder aux bons achats, puisque achats, de toute manière, il y aura. Alors, vous allez aider nos auditeurs aujourd'hui à se poser les bonnes questions. Vous en avez déjà listé un certain nombre au sujet de l'accompagnement et le soutien qu'il est préconisé d'apporter à son enfant, dont son enfant petit, hein, on l'a vu tout petit dès la naissance. Est-ce que vous voulez nous les présenter, Clémentine Delbecq, ces bonnes questions que nous devons tous nous poser, les grands-parents aussi?
Oui, alors ces questions, il faut se les poser dès qu'on porte son enfant, qu'on le pose au sol, qu'on achète quelque chose, qu'on veut l'installer dans une position. Déjà, il faut se demander si on respecte le rythme de l'enfant ou si on ne devance pas ses compétences. Est-ce qu'on l'accompagne bien? Est-ce qu'on le soutient bien dans ses découvertes? Est-ce qu'on lui fait suffisamment confiance? C'est vraiment des questions à se poser à chaque moment quand on est parent d'un bébé.
Tout à fait. Les bonnes questions, justement, là, on va en parler tout au long de l'émission. Alors, elles se posent, en effet, aux jeunes parents. C'est pas toujours simple de savoir y répondre. Et puis, il y a aussi les réactions dans l'urgence. Alors ça, les réactions dans l'urgence, bon, ce sont des questions que justement on s'était pas posées. Aujourd'hui, on est là justement pour se les poser. Alors les réponses, eh bien, risquent d'être données de manière empirique et bien sûr pas toujours appropriées. Vous évoquez l'existence d'un cheminement préprogrammé dans le développement psychomoteur du bébé avec une succession d'étapes sans âge défini. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce développement de l'enfant et cette succession d'étapes sans âge défini, Clémentine Delbecq.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, chaque bébé possède justement ce cheminement préprogrammé. Si on n'intervient pas du tout, si on laisse un bébé faire son développement moteur en toute autonomie, il va passer par les mêmes étapes que tous les autres bébés, mais à son propre rythme. Donc, c'est pour ça qu'on ne donne pas d'âge défini. Le bébé posé au sol dès sa naissance, sur le dos par exemple, va se retourner petit à petit sur le côté, puis sur le ventre. On peut aussi le poser quelques instants sur le ventre, toujours sous la surveillance des parents. Une fois sur le ventre, il redresse sa tête, il se muscle la nuque et le dos, et il va pouvoir commencer des tout petits déplacements en avant, en arrière, ou sur les côtés, il va pivoter. Il va vouloir avancer un petit peu plus. En général, il se pousse sur les mains et va commencer à ramper en arrière avant de trouver le cheminement de se repousser sur les pieds et de ramper vers l'avant. Après cette étape de ramper, s'il se redresse encore un petit peu, décolle son ventre du ventre, il arrive en position quatre pattes. Et de là, il va pouvoir se déplacer à quatre pattes et même s'asseoir. Quand il a acquis cette position, il va pouvoir, devant un petit obstacle, un petit meuble ou un jouet, passer à genoux, d'abord les fesses collées sur les talons, puis se redresser à genoux dressés avec les fesses décollées. Et pour se relever, il va poser un pied devant lui. C'est la position qu'on appelle le chevalier servant. Et va repousser encore un petit peu sur son pied et sur ses mains qui sont en appui sur le meuble et se retrouver debout. Et là, il n'en est pas encore au stade de la marche, il manque quelques petites étapes. Par exemple, marcher le long d'un meuble, le long d'un mur, tenir debout sans appui, passer d'un meuble à l'autre, pousser un objet. Et la dernière étape, c'est se relever du sol sans l'aide d'un objet. Ensuite, il sera prêt à marcher. Il est important qu'il passe par toutes ces étapes. Mais en fait, certains de nos gestes qu'on fait par habitude peuvent empêcher une étape de se dérouler. Par exemple, ce qu'on fait parce qu'on a toujours fait comme ça, c'est asseoir un enfant alors qu'il ne sait pas encore s'asseoir de lui-même. C'est le faire pousser sur ses pieds parce qu'on a l'impression qu'il a envie d'être debout et que ça le fait rigoler. C'est l'aider à marcher quand il commence à se tenir tout seul, le mettre dans un youpala ou le laisser trop longtemps dans un support sur un coussin mou, un transat ou un cosy. Tous ces petits gestes ne vont pas du tout empêcher l'enfant de marcher, mais peuvent entraîner des effets néfastes à moyen terme ou à long terme. Par exemple, un manque d'autonomie. Un manque de confiance en soi, car l'enfant a l'impression qu'il a besoin de l'adulte pour bouger, pour se déplacer. Des problèmes de coordination, car le quatre pattes est vraiment nécessaire à l'établissement d'une bonne coordination au niveau neurologique et corporel. Des problèmes d'équilibre, d'apprentissage, car il faut avoir une bonne latéralité pour les apprentissages de l'écriture, par exemple. Et même à l'âge adulte, des douleurs de dos peuvent arriver, car la colonne vertébrale n'a pas été respectée dans son développement.
Tout à fait. Donc, respecter ce que vous, à l'instant, vous nous disiez, Clémentine Delbecq, le rythme de l'enfant, pas trop vouloir faire à sa place aussi, trop le stimuler non plus. Le syndrome du bébé assis, Jenny Minguet, qui est kinésithérapeute à Fréjus, nous en avait parlé justement. Et concrètement, déjà, vous nous avez répondu sur ce point, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus encore de ce qu'on peut faire lorsqu'il s'agit d'un bébé qui ne sait pas encore marcher, mais qui va à se muscler aussi, j'imagine que cette façon de se traîner au sol, c'est très bon aussi pour sa musculature.
Ah oui, tout à fait. La musculature, le squelette, etc. Alors le syndrome du bébé assis, c'est pas un terme que je connaissais, mais je trouve que c'est très parlant. Et c'est justement ça que je souhaite éviter par mes actions en prévention dans les crèches et les ateliers que je fais parents-enfants. Il y a d'autres alternatives à poser un bébé assis. Hein. On peut l'allonger sur le ventre, sur le côté ou sur le dos. Il peut rester très longtemps comme ça s'il a quelque chose à regarder, à toucher, si on est près de lui. Et quand on sent qu'il en a marre d'une position, on peut le changer de position, le faire rouler sur le ventre, on le fait rouler sur le dos, jusqu'à ce que vraiment on sente un inconfort. Et là, on peut porter notre enfant, hein, porter dans les bras, dans une écharpe, dans un porte-bébé physiologique, va construire... une base de sécurité pour le bébé aussi, et il va ressentir tous nos mouvements à nous. Donc porter un enfant n'est pas une entrave à son développement. Pour aller plus loin, on peut lui faire prendre des bains libres, par exemple allonger l'enfant sur le dos dans une baignoire avec très peu d'eau. Là, il va être complètement libre de ses mouvements, il va pouvoir jouer avec l'eau. Bien sûr, on reste à côté, hein, mais ça évite l'utilisation d'un transat ou un réducteur de baignoire qui contraint les mouvements. Un bébé qui est assis sur nous ou sur une chaise haute, par contre, on peut bien sûr se le permettre, car l'enfant assis sur nous, il peut se reposer. Et dans une chaise haute, si c'est limité pour les repas et qu'on le laisse pas trop longtemps, ça ne peut pas être néfaste. Pour aller encore plus loin, pour laisser un enfant vraiment autonome et le laisser libre dans ses mouvements, on peut le laisser explorer toute la maison. Hein, si la maison est sécurisée, il n'a pas besoin d'être dans un parc, il peut explorer un petit peu partout, monter sur le canapé, monter sur les escaliers. Les escaliers, entre parenthèses, c'est un super exercice pour les enfants et on les laisse assez peu le faire car on a très peur. Alors il ne s'agit pas de laisser l'enfant, le bébé tout seul dans les escaliers, mais à partir du moment où il fait du quatre pattes, on peut l'accompagner dans les escaliers, être à côté de lui, le soutenir, l'aider à redescendre comme il faut, c'est-à-dire à quatre pattes en marche arrière pour pas qu'il y ait de chute, mais c'est un exercice qui développe la musculature et la coordination. Essayer de remonter le toboggan par le bas, c'est quelque chose aussi que les enfants font de façon spontanée, ouais. Et qu'on ne les laisse pas faire parce qu'il y a un sens. Et en fait, le remonter par le bas fait travailler encore plus de choses. On peut le laisser manger avec les mains aussi, hein. On mange avec les doigts, on mange avec tous les sens. Et marcher pieds nus, c'est quelque chose aussi de très important qu'on ne dit pas assez. Marcher pieds nus ou en chaussures souples, hein. Souple, c'est que la semelle doit se plier dans les deux sens, permet de bien développer ses appuis, son équilibre et sa motricité, contrairement aux idées que l'on a sur les chaussures rigides.
Oui, tout à fait. Là, je vois dans votre, votre démonstration des exemples qui peuvent être très intéressants. Entre autres, utiliser l'escalier. C'est vrai que autour de moi, j'ai rarement vu les parents utiliser cet exemple de l'escalier. Où en effet, quand vous l'expliquez, on se dit pourquoi pas, mais voilà, on a plutôt tendance trop souvent à faire craindre à l'enfant un certain nombre de gestes plutôt qu'à l'aider, l'accompagner quand lui montre cette envie de démarche, de crapahuter. Alors, vous avez commencé, Clémentine Delbecq, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes psychomotricienne à Saint-Raphaël, vous avez commencé à nous donner des pistes, hein, pour les comportements, pour des parents, la bonne acquisition de ces étapes d'apprentissage. Et voulez-vous nous en dire plus justement pour aménager par exemple l'espace, on a parlé des escaliers, pour qu'il soit sécurisant et non pas lui dire non toute la journée, ce bébé.
Alors aménager l'espace du salon par exemple, c'est mettre des cache-prises, laisser enlever les meubles qui peuvent avoir des coins dangereux ou les recouvrir, fermer les placards, mettre les objets de valeur en hauteur pour que l'enfant soit vraiment libre de ses mouvements et qu'on n'ait pas à lui dire non toute la journée, hein, parce que l'enfant vers 18 mois est dans la phase du non, c'est lui qui dit non toute la journée. Mais en fait, si on réfléchit bien, dès qu'il commence à marcher à quatre pattes, c'est nous qui lui disons non. Il ne fait que reproduire ce qu'il entend. Voilà, le parent doit vraiment avoir une attitude de confiance envers son enfant. Hein. Son enfant va se développer de façon tout à fait normale à son rythme. Il a besoin de bouger, il a besoin de découvrir. Donc le parent doit être présent pour rassurer l'enfant et pour la sécurité, bien sûr. Doit l'encourager, mais ne doit pas intervenir directement ou tout faire à la place de l'enfant, pour son autonomie, pour sa confiance en lui. Car si l'enfant est passé par toutes ces étapes avec vraiment une attitude bienveillante de l'adulte, il sera autonome, il aura confiance en lui, il aura développé les capacités d'équilibre, de coordination pour les apprentissages scolaires, pour la pratique du sport et pour le bien-être en général, pour toute sa vie.
Donc en fait, on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est vraiment les premiers gestes, les premiers mois où tout se joue. Clémentine Delbecq, vous organisez des ateliers justement à ce propos, puisqu'on est en train de parler des bons gestes de motricité au sein de l'association Bébé en conscience. Et donc, vous faites des consultations de conseils aux parents et de rééducation à votre cabinet, dont je rappelle à nos éditeurs, qui est situé à Saint-Raphaël, pôle famille déjeuner, zone donc déjeuner. Alors ça se trouve au boulevard Jean Moulin à Saint-Raphaël. En quoi consiste-t-il, Clémentine Delbecq, ces ateliers? Vous conseillez quel rythme? Pouvez-vous nous donner une petite idée, une petite approche des tarifs pratiqués? Est-ce qu'il y a certaines mutuelles, on en parlait hors antenne, qui commencent à rembourser les séances de psychothérapie? Chez nous, pour ce qui est des psychologues, on voit maintenant des remboursements. Et en ce qui concerne donc votre métier à vous de psychomotricienne, pouvez-vous nous en dire plus au sujet de ces ateliers?
Oui, alors il faut déjà définir deux choses différentes. Il y a les ateliers de prévention et après il y a les séances de rééducation. Pour tout ce qui est prévention, il y a effectivement les ateliers de motricité que je fais dans l'association Bébé en conscience. On a appelé ces ateliers la bougeothèque en lien avec des ateliers qui ont été mis dans une ville dans le nord de la France par la mairie. Alors la bougeothèque 0-4 pattes, c'est un atelier pour les enfants de la naissance jusqu'au premier déplacement. Donc on a dit 4 pattes, mais déjà à partir du rampé. Ça consiste en une proposition de petits jeux corporels qu'on fait avec son bébé. Alors je montre des postures de yoga, on détend les bébés sur un gros ballon, on les berce dans un hamac. Et c'est aussi l'occasion de parler de motricité, faire de la prévention justement avant que les bébés soient assis. Ensuite, l'autre atelier pour les enfants plus grands, dès qu'ils commencent à se déplacer en rampant ou à quatre pattes, ils passent en bougeothèque 4 pattes 2 ans. Et là, c'est un grand parcours de 30 mètres carrés de motricité. C'est sécurisé, c'est tout en mousse, dans lequel l'enfant peut grimper, ramper, escalader, glisser, se cacher, manipuler, plein de choses. Donc c'est toujours en présence d'un parent. Et là, l'enfant peut aussi rentrer en relation avec d'autres enfants s'il n'est pas déjà en crèche. Et c'est aussi l'occasion pour les parents de se retrouver, de faire des connaissances. Voilà, c'est très convivial. Donc là, au sein de l'association, c'est 10 euros l'atelier. Il y a une cotisation annuelle à l'association à payer en plus. Ensuite, mes actions au cabinet, donc en libéral. Il y a les consultations de conseil. Donc ça, c'est n'importe quel parent qui se pose des questions sur le développement de son enfant, qui a des inquiétudes, qui veut être rassuré ou juste que un professionnel observe son enfant. Donc là, ça dure 30 à 45 minutes et c'est au tarif de 30 euros. La dernière partie, c'est pour la partie rééducation. Donc ce sont des bébés qui ont des difficultés transitoires ou persistantes, alors c'est-à-dire un torticolis qui les empêche de se retourner, un retard de l'apparition d'une étape, le retard de la marche, etc. Ça dure aussi 30 à 45 minutes sur le même tarif, mais là cette fois-ci c'est sur prescription médicale et avec une possibilité de remboursement par la mutuelle. Donc ça dépend vraiment des mutuelles, mais ça commence à se faire plus rembourser qu'avant.
Très bien. Donc, on voit en effet différentes sortes d'ateliers, différentes sortes de consultations et donc un encouragement aux parents. Surtout, n'hésitez pas à vous tourner vers des professionnels comme Clémentine Delbecq, qui est psychomotricienne. Donc, un grand merci, Clémentine Delbecq, d'avoir accepté de venir à l'antenne. Merci beaucoup.
Merci à vous.
De nous parler donc de votre spécialité. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent vous retrouver en réécoutant l'émission d'aujourd'hui, Échange, en podcast sur le web en ouvrant la page de la radio, la page d'accueil, en cliquant en haut de cette page sur l'onglet réécouter. Merci à Bruno Ponce pour l'enregistrement. Donc merci de votre attention, chers amis auditeurs de Mosaïque FM, et à bientôt.